Noël est un temps de retrouvailles, de réjouissance et de gaieté. En Occident, la plupart des gens offrent des cadeaux à leurs amis et aux membres de leur famille. Noël est une fête où tout doit être parfait, comme un ciel sans nuages ou une nuit étoilée. On expose la crèche avec l'enfant Jésus et les animaux autour de lui, mais on passe sous silence un événement particulièrement cruel et sanguinaire qui a pourtant eu lieu quelque temps après que les rois mages arrivent pour adorer le Seigneur. Il s'agit de ce qu'on surnommait le massacre des innocents, la mise à mort systématique de tous les petits garçons de Bethléem. L'instigateur de cette boucherie est le roi Hérode. C'est lui qui, sous la tutelle romaine, détient le pouvoir de Judée. Cet homme est de religion juive parce que son peuple a été forcé de l'adopter sous peine de mort par les Maccabées. La famille des prêtres qui dirige Juda jusqu'à ce que Rome prenne le contrôle de la Palestine. Hérode est de culture grecque et le seul enfant de sa famille à porter un nom grec d'ailleurs. Il tente plusieurs fois de transformer Jérusalem en une ville grecque. Politiquement parlant, Hérode est romain. Chaque fois qu'il y a un conflit, il se place résolument du côté de Rome. Toutes ces caractéristiques réunies font de lui un individu fort complexe. On le décrit comme un homme capable, musclé et courageux qui conduit personnellement son armée dans 10 guerres différentes. En fait, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il est de caractère noble, du moins au début de sa carrière. En effet, pendant le conflit entre d'une part Antoine et Cléopâtre, et d'autre part Octavien, pour le contrôle de l'Empire romain, Hérode met tout son poids du côté d'Antoine qui est battu. Après sa victoire décisive sur son adversaire, Octavien, le futur César Auguste, se rend à Rhodes afin de préparer la suite. Hérode y va également et lui demande une audience qui lui est accordée. Pendant toute sa vie, Hérode a été un ami personnel d'Antoine et l'a donc soutenu contre Octavien. Mais maintenant, comment va-t-il tirer son épingle du jeu? Eh bien, il entre dans la salle d'audience sans sa couronne et déclare à tous les assistants qu'il a toujours été du côté d'Antoine et qu'il lui est resté fidèle, même dans la défaite. Puis il achève son discours en disant « Ce que je demande est qu'on prenne en considération, non pas de qui je suis l'ami, mais quel ami fidèle je suis. » César est très impressionné et déclare alors que Hérode est un homme sûr qui il peut compter, et lui dit de remettre sa couronne sur la tête. Hérode retourne ensuite en Palestine avec son titre de roi mieux assuré que jamais. Mais avec les années, le caractère d'Hérode se désintègre. En tout, il se marie avec 10 femmes. Il considère ses fils comme des ennemis politiques potentiels et sous ses ordres, 2 d'entre eux sont étranglés. Plus tard, il se met à suspecter la loyauté de Marianne, sa femme préférée, et la fait assassiner. Ce méfait accompli, il se met à déambuler dans son palais en criant son nom et il ordonne à tous ses serviteurs de se mettre à sa recherche. Comme ils ne peuvent pas la trouver, il les fait battre de verges. Hérode est un homme génial et brutal. Devenu vieux, il est affligé de maladies très douloureuses. Dans ses derniers jours, il fait arrêter le prince successeur qu'il a pourtant lui-même choisi et le fait enfermer dans le donjon de son palais. Alors qu'il souffre atrocement, il essaie de se suicider, mais un garde l'en empêche et tout le palais est en émoi. La confusion qui s'ensuit se transforme en la nouvelle de sa mort qui se répand comme une traînée de poudre. Entendant cela, le prince ordonne qu'on le relâche afin qu'il puisse prendre les rênes du pouvoir. Mais Hérode, ayant survécu à sa tentative de suicide, il ordonne la mise à mort du prince. 5 jours plus tard, Hérode mort. Son dernier ordre est de commander à ses troupes d'arrêter des milliers de notables de son royaume et de les enfermer dans le stade de Jéricho. À sa mort, tous ces hommes doivent être exécutés afin qu'il y ait un grand deuil national, car Hérode sait très bien que nul ne versera une seule larme pour lui. Heureusement, ce dernier ordre ne fut jamais exécuté. Quand on considère quel genre d'homme Hérode est devenu, il n'est guère surprenant qu'il ait donné l'ordre de massacrer des petits garçons de Bethléem. Jésus est né dans un monde où la brutalité est de mise, et le roi Hérode est de son temps, mais aussi un jouet entre les mains de Satan qui essaye, par lui, d'éliminer l'enfant Jésus, le Messie. Étant donné que le sujet qui nous occupe est le prophète Abdias, on peut se demander ce que Hérode vient faire ici. Eh bien, le prophète Abdias annonce principalement l'anéantissement du peuple d'Édom, et il se trouve que le roi Hérode est iduméen. En effet, par son père, il descend d'Ésaü, l'ancêtre fondateur des Édomites, et sa mère est une arabe nabadéenne de Pétras, l'ancienne capitale du royaume d'Édom. L'animosité entre les Édomites et les Israélites est certainement l'un des plus anciens exemples de discorde et de haine entre deux groupes ethniques, Ésaü et Jacob. Les ancêtres fondateurs de ces deux peuples sont jumeaux, et leur conflit commence déjà dans le sein de leur maman, Rebecca. Ésaü, étant né le premier, c'est à lui que revient le droit d'aînesse avec tous ses privilèges. Mais Ésaü, devenu homme, un jour et alors qu'il revient de la chasse avec une faim de loup, il échange par serment ses droits de premier-né contre une potée bien garnie. C'est ainsi que Jacob surplante Ésaü. Après cet incident, Ésaü complote la mort de son frère, mais leur mère Rebecca éloigne Jacob en l'envoyant chez son frère Laban. Ésaü doit son nom, qui veut dire « velu », au fait qu'il est né couvert de poils. Il est également surnommé Édom, ce qui veut dire « roux », parce que d'une part, il est roux de la naissance, et d'autre part, la potée contre laquelle il échange son droit d'aînesse est de couleur rousse. Plus tard, Ésaü s'installe dans le pays de Séir, une région de grès d'une couleur qui aussi tire sur le rouge et située au sud-est de la mer Morte. Ses descendants exterminent ou chassent les Auriens qui y habitaient et prennent leur place. Pour toutes ces raisons, la couleur rousse est associée depuis toujours à Ésaü, surtout si on ajoute que c'est un peuple sanguinaire. Mais cette caractéristique est relativement banale, car dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, en certains pays, la vie humaine ne vaut pas un clou. Les Édomites s'installent donc dans la montagne de Séir, un mot qui, assez curieusement, a la même consonance que « velu », qui est la signification du mot « Ésaü ». Tout ça pour dire que Séir et Ésaü, c'est du pareil au même, et avec Édom, ils forment 3 mots utilisés comme synonymes dans l'Ancien Testament. Quand les Hébreux sortis d'Égypte sont en vue du pays promis, ils demandent aux Édomites de les laisser passer sur leur territoire, mais ces derniers refusent catégoriquement et rassemblent tous leurs guerriers. Israël est alors déjà très puissant et aurait probablement pu vaincre les Édomites, mais l'Éternel ordonne à son peuple de ne pas prendre les Édomites en grippe parce que ce sont leurs frères. Une fois Israël installé en Palestine, l'hostilité entre les Israélites et les Édomites continue de plus belle parce que ces derniers ont la haine au ventre contre leurs frères de sang. Le roi Saül et Salomon ont maille à partir avec les Édomites et le roi David les écrase au point de presque les exterminer. À un moment donné, Josaphat, roi de Juda, Yoram, roi d'Israël Nord, ainsi que le roi d'Édom, forment une confédération pour attaquer les Moabites. Mais cette coopération est de courte durée. Peu de temps après, et toujours sous le roi Josias, il y a un renversement d'alliance et les Édomites se joignent aux Moabites et aux Ammonites pour attaquer Juda. Mais l'Éternel intervient en semant la zizanie dans les rangs des conjurés et au final, dans le second livre des Chroniques, on lit « Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. » Plus tard, et comme je l'ai déjà dit, sous le règne de Joram roi, fils de Josaphat, les Édomites se révoltent contre Juda, dont ils sont les vassaux. C'est à cette époque qu'ils se joignent aux Philistins et aux Arabes pour mettre à sac Jérusalem, faire un massacre et vendre ses habitants comme esclaves. C'est à cet événement que fait référence le prophète Abdias. Cette incursion ne fait évidemment que jeter de l'huile sur le feu. Le roi de Juda, Amasias, 804 à 775, fait la guerre aux Édomites et en tue 10 000. Plus tard, pendant le règne du roi Ahaz, roi de Juda, toujours dans le second livre des Chroniques, on lit « De nouveau les Édomites avaient envahi le royaume de Juda, avaient battu les Judéens et emmené les captifs. » Enfin, en 586 avant Jésus-Christ, les Édomites se joignent aux Babyloniens lors de la destruction de Jérusalem et du Temple. C'est à ce moment-là que, des gradins, ils crient à tue-tête « Rasez-la donc, rasez-la jusqu'aux fondations !» Quelques années après cet incident, le déclin des Édomites commence pour ne plus s'arrêter jusque la disparition totale et complète. Cette longue liste de guerres fratricides et de tueries entre les Israélites et les Édomites est due à la haine ancestrale que vous, les descendants d'Ésaü aux Hébreux, alors que ces derniers n'attaquent le royaume d'Édom qu'après une provocation. D'après les récits de l'Ancien Testament, les Israélites n'éprouvent aucune haine à l'égard de leurs voisins et désirent simplement vivre en paix avec eux. À cause de l'animosité perpétuelle des Édomites envers leurs frères de sang, l'Éternel prononce plusieurs fois des jugements contre eux par l'intermédiaire de ses prophètes, dont Abdias, qui fait des châtiments à venir d'Édom le sujet principal de ses oracles. Cette prophétie s'est accomplie petit à petit au fil des siècles et peut être résumée de la façon suivante. Après la mise à sac de Jérusalem par les Babyloniens, et malgré la présence des Édomites à leur côté, les descendants d'Ésaü sont envahis à leur tour environ 5 ans plus tard par les armées de Nebuchadnezzar. Même s'il n'existe pas de traces historiques de cette conquête, Jérémie la prophétise. Et l'historien juif Joseph écrit que les Babyloniens attaquèrent la Syrie, conquirent les Moabites, les Ammonites, puis envahirent l'Égypte. Or, il n'est guère plausible de penser qu'ils ont laissé les Édomites tranquilles, alors qu'on peut être sûr qu'ils se sont joints à leurs voisins Moabites et Ammonites pour résister à l'agression babylonienne. Au contraire, c'est à la ruine d'Édom, à ce moment-là, que correspond la prophétie de Malachie, dans laquelle l'Éternel dit « J'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ces montagnes un pays désolé. Je l'ai livré et j'ai livré son patrimoine au chacal du désert. » Et donc on peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux, ils rebâtiront, moi, je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui, toujours, l'Éternel sera en colère. Vaincus par les Babyloniens, les Édomites rescapés s'établissent dans le sud de la Judée, la partie du territoire de la tribu de Juda qui, en grec, s'appelle Idumée. À cette même époque, les Nabatéens font leur apparition en Palestine. Il s'agit d'une tribu d'Arabie probablement issue du fils aîné d'Ismaël, le premier garçon né d'Abraham et d'Agar, servante de Sarah. Les Nabatéens ont peut-être même été envoyés par Nebuchadnezzar pour occuper la place laissée vacante par les Édomites. Ces Arabes prennent la possession de Petra, l'ancienne capitale d'Édom, et de ce fait contrôlent le golfe d'Aqaba sur la mer Rouge, ainsi que l'important port d'Elat. Les Édomites, qui sont encore dans la montagne de Séhir, sont absorbés par les Nabatéens et disparaissent en tant que peuple. Au IIe siècle avant notre ère, et alors qu'ils sont installés dans le sud de la Judée, les Édomites sont attaqués et vaincus par Judas Maccabée. Puis, vers l'an 135 avant notre ère, un autre membre de la famille des Maccabées les contraint à se soumettre à la loi de Moïse et donc à se faire circoncire. Plus tard, au moment de la guerre des Juifs contre Rome, les Édomites sont alliés aux Hébreux, ce qui fait qu'ils sont exterminés lors de la prise de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus. Quelques fuyards se réfugient parmi les tribus du désert où ils disparaissent complètement. Au IIIe siècle de notre ère, Origène, père de l'Église, affirme qu'il ne reste plus rien des descendants d'Ésaü, ni leur nom, ni leur langue. Abias n'est pas le seul à prophétiser contre Édom. Ils sont 8 auteurs sacrés à le faire. Comme je l'ai déjà dit, Joël aussi annonce leur châtiment parce qu'ils ont osé s'attaquer à Jérusalem. Mais quand on considère les prophéties d'Abias et de Joël, on retrouve 6 versets d'Abias chez Joël. De toute évidence, l'un s'est forcément inspiré de l'autre, ou alors tous deux ont puisé à la même source de documents. Comme Joël a prophétisé quelques années après Abdias, c'est Abdias qui détient la copie originelle. C'est Jérémie et Abdias aussi, on retrouve pratiquement les mêmes phrases, et nous allons les comparer. Du côté d'Abdias, on peut lire ceci. Révélation reçue par Abdias, le Seigneur l'Éternel déclare sur Édom. J'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel et un héros a été envoyé au milieu des nations. Levez-vous, leur dit-il, partons en guerre contre Édom. Et maintenant, du côté de Jérémie, on peut lire, j'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel et un héros a été envoyé au milieu des nations. Rassemblez-vous et marchez contre lui. Levez-vous pour la guerre. Et maintenant, du côté d'Abdias, « Je vais te rendre le plus petit des peuples et tu seras très méprisé, car ton orgueil t'égare, toi qui as ta demeure dans le creux du rocher, toi dont l'habitation est haute perchée, tu te dis en toi-même, qui m'en fera descendre si, comme l'aigle, tu t'élevais et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. » Et voilà ce qu'écrit Jérémie, voici, je vais te rendre le plus petit des peuples méprisés par les hommes. La peur que tu inspires et ton orgueil t'égare, toi qui as ta demeure dans les creux des rochers et qui occupe le sommet des collines. Oui, comme l'aigle, tu élèves ton nid, de là je te ferai tomber, l'Éternel le déclare. Du côté d'Abdias maintenant, si des voleurs ou des pillards viennent chez toi, pendant la nuit, ils prendront tous tes biens qu'ils peuvent emporter et tu seras totalement ruiné. Et si des vendangeurs viennent chez toi, ils te laisseront rien de ce qu'ils grappillent. Ô Ésaü, comme on te fouille, on met à jour tous tes trésors cachés. Et maintenant, du côté de Jérémie, si des vendangeurs pénétraient chez toi, ne laisseraient-ils pas que ce qu'ils grappillent, et s'il s'agissait de voleurs nocturnes, ne détruirait-il pas jusqu'à ce qu'il ait, qu'ils en aient assez? Moi, je fouille Ésaü, je mets à découvert ses lieux secrets, il ne pourra pas se cacher, tout est détruit, sa race, sa parenté et ses voisins, plus personne pour dire. Maintenant, du côté d'Abdias, en ce jour-là, l'Éternel le déclare, « Je vais faire périr tous les sages d'Édom. Je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. » Et du côté de Jérémie, « Prophétie sur Édom. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Le peuple de Téman a-t-il plus de sagesse? Et les gens clairvoyants n'ont-ils plus de conseil? Leur sagesse est-elle perdue? Ici encore, il est évident que l'un des deux prophètes s'est inspiré de l'autre. Sous l'action de l'Esprit de Dieu, Jérémie a repris la prophétie d'Abdias. En effet, on est quasi certain qu'Abdias a précédé Jérémie, et on sait que ce dernier a l'habitude de rattacher ses prophéties à celles de ceux qui l'ont précédé. Le texte d'Abdias est suivi simple et clair, et le prophète passe logiquement d'une pensée à une autre. Alors que Jérémie, la continuité des idées fait défaut, car il écrit des phrases détachées qui ressemblent à des citations. Et puis, le style d'Abdias est beaucoup plus rudimentaire que celui de Jérémie, qui est mieux travaillé. De plus, il serait extrêmement bizarre qu'une prophétie aussi brève que celle d'Abdias ait sa source dans une autre. Par ailleurs, il n'est pas possible qu'Abdias ait emprunté la majeure partie de son oracle d'un autre prophète et puisse dire « Révélation reçue par Abdias, le Seigneur l'Éternel déclare sur Édom ». Abdias est donc un lointain précurseur de Jérémie et sa prophétie est bien antérieure à la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Le style d'Abdias est très original, car il utilise des mots et des expressions qu'on ne trouve nulle part. Son langage respire l'antiquité et se distingue nettement des grands prophètes. Abdias parle rapidement avec vigueur et sévérité, amenant le lecteur qui ne peut que sympathiser avec lui. Abdias aime les interrogations, pleines de détails, vifs et éclatants ainsi que les affirmations coup de poing. Il est souvent poète et jamais monotone. Après son accusatoire contre les étrangers qui ont infligé tant de blessures à Jérusalem, il conclut en disant à Édom, « Oui, toi aussi, tu as agi comme eux. » En seulement 3 versets, Abdias ordonne 8 fois aux Édomites de ne pas profiter de la situation de détresse de leurs frères israélites. Et dans le texte hébreu, il répète 10 fois « au jour de » afin de bien scander et d'accumuler les raisons du jugement à venir d'Édom. Enfin, il conclut son livre prophétique par un coup de poing de masse quand il dit « Alors l'Éternel sera roi ». Le caractère limité des perspectives du livre d'Abdias, en particulier en ce qui concerne le salut, donne à penser qu'il se situe au début de l'histoire et de la littérature prophétique. Cette supposition est rencontrée par la place qu'occupe le livre d'Abdias dans le canon hébreu de l'Ancien Testament, où il est rangé parmi les textes des premiers prophètes écrivains. En résumé donc, on peut dire avec une quasi-certitude qu'Abdias a émis sa prophétie peu avant l'an 845 avant Jésus-Christ, vers la fin du règne de Joram, roi de Juda. Le livre d'Abdias se compose de 2 parties principales. La première qui se subdivise en 2 annonce d'abord la ruine d'Édom, puis en expose les raisons. Édom s'est réjoui du malheur de son frère, le peuple de Juda, et a profité d'une invasion ennemie pour piller Jérusalem et piller les rescapés afin de les tuer. Pour ses crimes, Abdias dit « On te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. » Selon la loi du talion, en vigueur sous le régime de l'Ancien Testament, Édom sera à son tour trahi par ses alliés, dépouillé de ses richesses et exterminé. Dans la seconde partie du livre, Abdias annonce la venue du jour de l'Éternel, jour du jugement de toutes les nations. Le châtiment d'Édom dans l'histoire est un prototype dans le sens qu'il anticipe le jugement final universel. Par contre, le peuple de Dieu bénéficiera du salut et dominera tous les autres peuples, C'est ainsi que l'Éternel assoira son règne dans l'histoire humaine. Le livre d'Abdias enseigne que Dieu est le maître de l'histoire et qu'il tient dans sa main les destinées, non seulement d'Israël, mais de toutes les nations. L'annonce du jugement souligne aussi que chaque homme et chaque peuple est responsable de ses actes et que nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. À bon entendeur, salut !